Bonjour tout le monde. Vous allez bien ce matin? Malgré le petit temps tristounet qu'on a eu depuis hier, ça a été moins tristounet cette nuit dans le sens que c'était plus orageux un peu. Ça nous a réveillé un peu, sans même réveiller Julia. Puis là, ça faisait 3 jours. Julia faisait toute sa nuit. Puis là, on dirait que c'était comme il fallait qu'elle ait beaucoup de nuit pour que ça nous réveille un peu plus cette nuit. Alors, vous allez bien ce matin? J'espère vraiment que vous avez passé une belle semaine, que ça a été profitable pour vous. Alors, ce matin, très content d'être avec vous. On met la série qu'on a entrepris depuis maintenant 2 semaines, 3e exposé, sur le thème qu'on a établi d'exposer ensemble, sur le thème qu'on a décidé de voir, examiner ensemble, sur le salut de l'humanité. Qu'est-ce qu'on entend par le salut de l'humanité? Qu'est-ce que la Bible a à nous dire sur le salut de l'humanité? Pourquoi est-ce qu'on devrait être sauvé? De quoi exactement? Par qui? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être sauvé? Puis si vraiment j'ai un problème avec Dieu, et puis que je devrais être sauvé de quelque chose, bien comment c'est supposé se manifester? Comment c'est supposé prendre forme? C'est des questions qu'on s'est posées au cours des dernières semaines, notamment de 2 prédicateurs invités, M. René Fré de l'église de... Bien là, je ne sais plus ce qu'on doit dire de l'église de Saint-Léonard, parce que maintenant il est à la retraite, 35 ans qu'il exerçait le ministère sur l'île de Montréal. Également, M. Morin, Jean-Sébastien Morin, qui est venu la semaine passée nous présenter également une prédication sur ce sujet-là de l'église Oasis à Deux-Montagnes. Premièrement, je voudrais les remercier. Je pense que l'église a vraiment été édifiée, a vraiment été exposée à la vérité des Écritures par rapport à 2 textes précis des Écritures. On a vu un texte dans les Psaumes, un autre dans le livre d'Ésaïe, pour voir exactement qu'est-ce qu'il en est du salut de l'humanité. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là? De voir le point de vue biblique que ces 2 hommes-là ont exposé par rapport aux Écritures. Et peut-être que pour certains d'entre vous, c'était du nouveau. Peut-être que c'est des choses auxquelles vous n'aviez jamais été exposé. Un des points qu'on a vu, notamment avec M. Fré, c'est que premièrement, l'être humain à la base, fondamentalement, c'est une créature qui est naturellement séparée de Dieu. De la même façon que des gouttes d'huile peuvent se retrouver dans un verre d'eau, je ne sais pas si vous avez déjà essayé l'expérience, mais avez-vous déjà essayé de faire fondre des gouttes d'huile dans un verre d'eau? Est-ce que c'est possible? Bon, peut-être qu'il y a des spécialistes en chimie qui diraient, oui, Miguel, c'est possible de telle manière, puis en ajoutant tel produit. Là, oubliez ça, on n'est pas dans un cours de chimie, mais naturellement, des gouttes d'huile qui se retournent dans un verre d'eau, l'eau va refuser de s'associer aux gouttes d'huile parce que c'est 2 mélanges différents. Ils ne formeront pas un mélange homogène et uni. Bien, de la même manière, on a vu que Dieu refuse d'entrer dans une relation harmonieuse avec chacun d'entre nous parce qu'il y a quelque chose qui nous sépare de lui. Notre péché. On est avec une nature imparfaite et Dieu, lui, est totalement pur. Et il y a un prophète, notamment dans l'Ancien Testament, qui dit, c'est Habacuc qui dit, que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal, pour rentrer en contact avec le mal. Aussi infime soit-il, on est d'une nature humainement qui est séparée de Dieu. On a un problème avec Dieu. Il ne peut pas s'associer à nous à cause de ce que nous sommes. On a vu toutefois la semaine dernière que dans un élan de inattendue grâce, dans une grâce insoupçonnée, Dieu a décidé de planifier, prévoir et envoyer un substitut. On a vu ça dans la livre d'Ésaïe qui, dans la personne de Jésus-Christ, a porté sur lui le poids de ce qui nous sépare de lui. C'est-à-dire, il a pris le poids de nos péchés. Et il y avait une formule que Jean-Sébastien a utilisée qui nous a dit, sur lui, sur Jésus, est tombé le châtiment qui nous donne la paix. Hein, on avait vu le fameux shalom que M. Morin a pris le temps de nous expliquer, où est-ce que Dieu désire rentrer dans une relation de paix avec nous. Mais de quelle paix est-ce qu'il s'agit? Exactement. Comment est-ce qu'on peut comprendre le message de paix et de salut que Dieu nous offre? Vous savez, pour la plupart des gens dans notre monde, ils ne se sentent pas en conflit ou en dispute contre Dieu. Demandez à votre voisin, à un non-croyant, un collègue au travail, votre soeur, votre père, demandez-lui s'il se sent en conflit avec Dieu. Mais il va vous dire que non, pas nécessairement. Ma vie est belle, j'ai une belle maison, j'ai un bon travail, j'ai des enfants qui vont bien. Je me chante. Dieu est en colère contre moi. S'il serait en colère contre moi, il me semble que ma vie serait moins légère, ce serait moins rose. Je sens qu'il poserait vraiment sa main pesante sur moi. Il y en a même qui vont dire, pourquoi est-ce que Dieu, admettons que Dieu soit en conflit contre moi. Premièrement, je me sens pas en conflit, donc pourquoi j'aurais besoin de sa paix? Je suis pas en colère contre lui, lui est pas en colère contre moi, je le ressens pas. Puis admettons, Miguel, que je le serais, que Dieu serait en colère contre moi. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un juge ou d'un substitut, plutôt, pour régler ce problème-là que j'ai avec lui? Si un jour je me présente devant lui, je m'arrangerai bien avec en temps et lieu, puis on va trouver un deal ensemble pour que on puisse, que ma vie puisse servir à quelque chose, puis qu'il puisse m'accepter. Vraiment. Avez-vous déjà essayé de vous entendre avec quelqu'un qui a le gros bout du bâton? Vous êtes en conflit, puis la personne au-dessus de vous, avec qui vous êtes peut-être un conflit, un problème, c'est elle qui tient le gros bout du bâton. Avez-vous déjà essayé de vous arranger, par exemple, avec un huissier qui vient pour vous saisir votre propriété au nom de la banque, puis essayer de vous entendre puis de négocier avec lui? C'est possible. Non, il y a une décision qui est prise. La banque dit au huissier, tu vas saisir cette maison-là. On a un problème avec ce créancier-là. La maison nous appartient. Maintenant, c'est plus le temps de négocier, là. La décision est prise. C'est la banque et le huissier qui tiennent le gros bout du bâton. Et on peut pas, à ce moment-là, faire un deal et s'arranger avec la personne avec qui on est en problème, de qui on est séparé. Pourtant, la Bible nous dit que même si on est séparé de Dieu, et que c'est lui qui tient le gros bout du bâton, il y a tout de même une issue pour chacun d'entre nous. Il y a une issue que Dieu nous propose, même si c'est lui qui tient le gros bout du bâton, même si lui est pur et que moi, personnellement, nous, en tant qu'êtres humains, on est séparés de lui, Dieu nous offre une alternative. Quelque chose que j'aimerais qu'on examine ensemble, simplement dans un nouveau genre littéraire, celui de l'épître. Alors, ce matin, aux Bibles, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 17, et je vais laisser ce matin le loisir à mon frère Stéphane de bien vouloir nous lire ce texte dans la nouvelle édition de Genève. Alors, sans plus tarder, on va voir ensemble ce dont il est question.
Hello. Donc, le texte de ce matin, dans 2 Corinthiens 5, je vais lire le verset 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
Merci beaucoup, Stéphane. Merci pour ce texte qu'on vient de lire dans la parole, dans l'épître de 2 Corinthiens, qui est, je pense que vraiment, quand on prend le temps de regarder ce texte-là et juste de le lire attentivement, on s'aperçoit que c'est un texte d'une richesse inouïe. Dans ce texte, on nous dit qu'il est possible de vivre en paix avec Dieu et de ne plus être séparé de lui, mais d'être réconcilié. Le terme réconcilié ici, vraiment, qui fait appel évidemment à une œuvre de réconciliation, c'est vraiment le mot-clé de tout ce passage-là. C'est celui qui a un peu le mot pivot qui donne un sens au texte et la manière qu'on pourrait le traduire, ce à quoi il fait appel, le mot réconciliation, ça fait appel au travail que les agents de change faisaient à l'époque. Est-ce que tout le monde ici sait c'est quoi un agent de change? Vous avez probablement déjà voyagé. Alors, qu'est-ce que ça fait un agent de change? Mais ça fait la même chose qu'à cette époque-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en retour d'une somme d'argent, vous en remet une autre, en devise locale ou étrangère, et il s'assure que ce que vous donnez, pour en termes d'échange d'argent, bien, il s'assure qu'il vous donne l'équivalent. Il vous donne l'équivalent. Si vous donnez un dollar américain, bien, il va vous donner l'équivalent dollar canadien, soit en euros. C'est un échange d'argent. Eh bien, c'est à ce type de travail, c'est à ce type de travail-là d'échange pour l'équivalence qu'on nous parle notamment au verset 19. Regardez ce que nous dit le texte au verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » C'est le verset maintenant qu'on va examiner ce matin, voir qu'est-ce que Dieu a à nous dire par rapport à notre salut, et qu'on pourrait ici facilement traduire comme étant de la réconciliation. Dieu veut nous sauver en nous réconciliant avec lui-même. Et ce que Paul ici essaie de dire, le contexte dans lequel il faut saisir le verset qui vient d'être lu, c'est que Paul essaie de convaincre les Corinthiens que tout ce qu'il a fait dans son ministère pour eux, le moment où il a implanté l'Église, tout le travail qu'il a fait pour eux, c'est un travail qui vient de Dieu. Et il leur démontre que ce travail-là qu'il fait pour eux, l'amour qu'il a pour eux, il vient de Dieu parce que c'est l'amour de Dieu qui est en lui, qui le presse à faire ce qu'il fait pour l'Église. Ce qui le motive dans son travail pour Dieu, ce n'est pas le fait d'être en avant devant tout le monde, d'avoir une réputation, une notoriété, de l'importance. Ce qui le motive profondément, c'est l'amour de Christ qui le presse, qui lui insuffle une énergie pour faire du travail pour l'Église. Il travaille pour un royaume dont Christ est le roi. Et le fait que l'amour de Christ qui le presse, il dit que c'est cet amour-là qui a fait de moi une nouvelle créature. C'est cet amour-là qui me presse, qui a fait de vous de nouvelles créatures, nous dit le verset 17. On est des nouvelles créatures. C'est ce que dit Paul ici. Si donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, nous dit le verset 17. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Qui fait ce travail-là? Eh bien, la première chose que Paul dit par rapport à notre salut et la réconciliation, c'est que c'est Dieu est la personne, il est celui qui nous réconcilie avec lui-même. Dieu, dans le texte, on voit que ce n'est pas nous qui nous réconcilions avec Dieu, mais que c'est Dieu qui nous réconcilie avec qui? Avec lui-même. Dieu est souverain et il est l'auteur exclusif du travail de réconciliation. Ce n'est pas moi qui peux me réconcilier avec lui à force de tourner mon chapelet. Ce n'est pas moi qui peux me réconcilier avec lui à force de faire du bien. Ce n'est pas moi qui peux me réconcilier avec lui à force de tourner mon moulin à prière, comme font les bouddhistes. Non, ce n'est pas une œuvre humaine. C'est Dieu qui nous réconcilie lui-même avec lui. C'est lui qui donne le change exact de la monnaie qui nous sépare de lui et qui en même temps en paie le prix. D'une certaine manière, on peut facilement comprendre ici qu'on ne parle pas de quelque chose d'anodin. Peut-être que pour vous, le fait de vous réconcilier avec votre voisin, votre collègue de travail, peut-être avec votre conjoint, c'est quelque chose que vous faites peut-être à chaque jour. Ou est-ce que c'est quelque chose qui devient habituel, coutumier, puis c'est normal, on est tous des êtres parfaits. Puis à un moment donné, à force que ça se répète, bien, on perd la beauté de ce que c'est ce travail-là de réconciliation. Mais il ne faut pas oublier ici que le prix de notre réconciliation avec Dieu, le salut qu'il nous offre, est basé sur un don de vie comme jamais l'histoire de l'humanité en a connu. Dieu est celui qui fixe le prix de ce qui nous sépare de lui, notre péché et la mort. Et il a envoyé son Fils payer lui-même ce prix-là qui a été exigé. La mort de Christ, c'est ce qui nous donne la réconciliation avec lui. Où Dieu paie ce qu'il a fixé comme prix. C'est lui qui est l'auteur de notre réconciliation, puis il en a à la fois le destinataire. Peut-être que vous le savez mieux que moi, mais souvent, recevoir le pardon de quelqu'un, je suis convaincu que ça vous est déjà arrivé, ou peut-être même de demander pardon, recevoir le pardon de la part de quelqu'un, ça ne répare pas tout. Si je m'excuse auprès de mes enfants pour mon impatience ou pour mon intolérance, ça n'enlève pas peut-être le moment où est-ce qu'ils ont subi mon intolérance ou mon impatience. Ils vont devoir passer par-dessus certaines choses pour pouvoir dire, « Papa, oui, ça m'a blessé, ça m'a surpris, ça m'a figé quand tu t'es mis en colère, là. Puis là, mais je veux passer par-dessus ce moment-là puis te pardonner. » Même si je ne reçois pas l'équivalent en termes de paix. Je prends la décision de passer par-dessus ce que tu m'as fait subir. Ils vont apprendre que Vivre avec un papa avec qui est imparfait, bien, c'est comme vivre ensemble. Mais vivre ensemble, ça implique toujours des risques. Ou est-ce que, oui, on risque de se faire trahir, oui, on se risque de se faire blesser, et que recevoir le pardon de quelqu'un, eh bien, c'est pas nécessairement, on ne va pas nécessairement recevoir de manière équivalente. Ça vous est-il déjà arrivé d'avoir une blessure? Quelqu'un s'excuse pour la blessure, mais si quelqu'un s'excuse, est-ce que ça l'enlève tout, absolument tout, de la blessure que vous avez subie? Pas nécessairement. Ça va prendre une volonté de votre part de passer par-dessus l'offense qui a été subie. Le pardon ne répare pas tout. Il y a un proverbe populaire qui dit ceci. L'amour est aveugle. Vous avez déjà entendu cette expression-là? Dans cette expression-là, c'est comme si on disait qu'on est prêt à passer par-dessus bien des bévues et fermer les yeux sur tout ce qu'on peut se dire parce qu'on aime la personne. Au nom de l'amour, on est prêt à faire abstraction de bien des choses. Est-ce que c'est Dieu qui nous aime ainsi? Est-ce que Dieu nous aime d'un amour aveugle? Est-ce que Dieu nous réconcilie avec lui-même par un amour qui est aveugle? Est-ce que Dieu nous réconcilie avec lui à n'importe quel prix? Regardez avec moi ce que dit Romains. Romains chapitre 5, au verset 8. Et là, je vous ai mis dans la version Darby, parce qu'on ne va pas nécessairement souvent dans la version Darby, mais je trouvais que la manière dont on a traduit le verset, cette version-là, met un peu plus l'accent sur le fait que Dieu fait quelque chose. On voit dans Romains 5, 8, dans la version Darby, Dieu constate. Qu'est-ce que ça veut dire, constater? Ça veut dire regarder. Il examine, il scrute, il démontre, il prouve. Dieu constate son amour à lui envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que l'amour de Dieu est aveugle ici? Absolument pas. Dieu constate, il examine, il scrute son amour à lui. Mais ce qu'il scrute et ce qu'il constate, ce qu'il examine, ce n'est pas ce que je fais pour lui si je mérite d'être réconcilié avec lui. Non, ce qu'il scrute et ce qu'il constate, c'est la vie de son fils qui est mort à la croix et qui me dit, même si tu es le pire des criminels, même si tu es le pire des idiots dans ce que tu fais au travail ou dans ta famille, bien mon amour que j'ai développé et que j'ai constaté et que j'ai démontré à la croix par mon fils, bien ça, c'est suffisant pour que tu puisses maintenant vivre comme un être réconcilié avec moi. Ce que Christ a payé à la croix équivaut à ce que j'ai pu commettre. Le paiement y est, le compte y est. Dieu fixe un montant que je ne peux pas payer pour me réconcilier avec lui. Donc, il a dit, ben moi, je vais envoyer mon fils payer ce montant-là. Je vais envoyer ce fils payer ce montant-là pour faire de toi quoi? Un être nouveau. Un être qui n'est plus séparé de Dieu, mais réconcilié avec lui. La réconciliation que Dieu nous offre est un acte époustouflant de Dieu qui réconcilie chaque personne qui décide de dire à travers Jésus-Christ, « Seigneur, je reconnais que je suis séparé de toi, que tes yeux sont trop purs pour voir mon cœur qui est tellement souvent orienté vers le mal, mais je crois que ton Fils a payé le prix suffisant, équivalent de tous mes péchés. Lorsque Dieu a dit à la croix, en Jésus-Christ, tout est accompli. Est-ce que vous croyez cela ce matin, au fond de votre cœur? Est-ce qu'il y a un péché en dedans de vous que vous ne vous pardonnez pas? J'en ai connu des gens comme ça. Ils ne se pardonnent pas certaines situations qu'ils ont commises, dont ils sont pas nécessairement tout le temps les victimes, mais parfois les auteurs. Et ils ne se pardonnent pas des choses qui ont été faites. Mais quand on ne se pardonne pas, on refuse l'acte de Dieu. Le pardon que l'on peut s'offrir à nous-mêmes, Dieu désire simplement l'accomplir. Tu n'es peut-être pas assez grand pour te pardonner. Peut-être que pour toi, c'est trop gros ce qui est arrivé. Aie pas peur, le compte y est. Ce que j'ai accompli à la croix, ça va être toujours assez immense pour combler n'importe quelle chose qui te sépare de moi. Quelle est la dernière fois dans notre vie de prière où on a pris du temps pour apprécier la valeur de ce que Christ a payé à la croix et l'adorer, simplement dans ma vie de prière, contempler cette préciosité de vie-là que Jésus nous a donnée à la croix pour payer ce qui me sépare de lui. On parle ici d'une identité. Comment est-ce que tu vis cette identité-là ce matin? Est-ce que tu te sens encore séparé de Dieu? Ou est-ce que tu te sens réconcilié avec lui? Et si tu te sens réconcilié avec lui et que tu as le bon critère de foi pour placer cet acte-là de salut pour toi, eh bien, Paul dit autre chose. À la suite du verset 19, il dit que si Dieu nous réconcilie à lui-même, c'est parce que Dieu refuse de nous traiter légitimement comme des êtres coupables. D'une certaine façon, si Dieu nous réconcilie à lui-même, c'est qu'il fait une œuvre à la croix, mais en faisant cette œuvre-là, il refuse d'en faire une autre, c'est-à-dire de me traiter comme un être coupable d'offenses que Dieu a déjà portées sur lui. On voit ici la façon et le moyen par lequel Dieu nous sauve, par lequel il nous réconcilie à lui-même. Ici, c'est clairement indiqué au verset 19 qui nous dit ceci, « Ce qu'il ne fait pas en nous réconciliant, c'est qu'il n'impute en point aux hommes leurs offenses. » Le mot « imputer » ici est un verbe qui veut dire « mettre quelque chose au compte ou au crédit de quelqu'un ». Si vous allez au guichet automatique, par exemple, pour retirer de l'argent, vous faites votre NIP et vous avez accès à quoi? Vous avez accès à ce qui vous est crédité à votre dossier personnel. Est-ce que vous allez avoir accès à ce que la personne a déposé dans son compte avant vous? J'espère que non. Si c'est le cas, là, venez me voir, c'est parce qu'il y a un problème. Non, va me voir, mais allez voir un agent ou le bureau de change. Pas le bureau de change, mais le bureau du... Allez voir quelqu'un parce que là, il y a un problème. J'ai accès à des sous qui ne m'appartiennent pas. Alors, tout dépendant, si vous êtes réconcilié ou non avec Christ, vous allez savoir quoi faire avec cet argent-là. Mais ce dont le passage nous parle ici, c'est que Dieu nous a réconciliés à lui car il a payé le prix de ce qui nous séparait de lui, c'est-à-dire notre péché. Donc, cela fait que le péché ne nous est plus crédité. Donc, si le péché ne nous est plus crédité parce que quelqu'un l'a payé, qu'est-ce qui arrive avec notre séparation d'avec Dieu? Elle n'existe plus. Pourquoi? Bien, parce que ce qui nous sépare de Dieu, notre péché, Christ en a payé le compte équivalent, il en a établi le compte exact, il a remis à Dieu la monnaie de sa pièce. Jésus a dit... D'une certaine manière, dans son cœur, pas textuellement, c'est comme si Jésus disait à la croix, « Seigneur, quel est le prix pour que l'humanité puisse être réconciliée avec toi? » Et Dieu dit, « Ben regarde, c'est ta mort parfaite. D'accord, je la donne. » Voici, c'est comme s'il y avait un échange équivalent entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Ou est-ce que quelqu'un de innocent, pas dans le sens de stupide, mais quelqu'un de innocent dans le sens de non coupable, décide de payer le prix de gens qui sont fautifs. C'est important ici de comprendre que Paul ne parle pas d'un fait universel. Dieu ne dit pas que les offenses de tout le monde ne sont pas imputées en Jésus-Christ. Ce qu'il dit, c'est que ceux qui se confient en la mort de Jésus-Christ comme un paiement, comme une rançon qui est donnée à Dieu pour le paiement de leurs fautes, c'est eux, c'est ceux qui posent leur foi en Jésus-Christ, qui sont réconciliés avec Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, peut les traiter comme des êtres non coupables. Il y a certains qui vont dire, « Miguel, ça, c'est quelque chose de profondément injuste. » Je dirais même que c'est immoral de faire subir un innocent les offenses de quelqu'un qui est fautif. Il n'y a pas longtemps, mon grand garçon, Louis Jacob, 11 ans, vient me voir en courant dans le salon. Il me dit, « Papa, 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 Elliot, son petit frère de 6 ans, vient détruire ma cabane de coussins dans le sous-sol. Je m'étais fait une cabane, un chalet en bois rond avec mes coussins dans le sous-sol. J'ai pris le sofa. Puis il a tout détruit. Il ne trouvait pas beau, puis il voulait le reconstruire. Papa, qu'est-ce que... Écoute, je suis hors de moi, là. » Bon, j'ai dit, « Écoute, est-ce que c'est si grave que ça? Écoute, t'as 11 ans, là, prends les coussins puis refais-les, là, t'es en vacances, t'as toute l'après-midi pour ça, t'as rien que ça à faire, refais-la ta cabane. » Comment vous pensez qu'il a réagi? Qu'est-ce qu'il a dit? Papa, ça, ce que tu me demandes de faire, c'est injuste. Tu me demandes de réparer la gaffe de quelqu'un d'autre alors que moi, je n'ai rien fait pour mériter ça. C'est vraiment moi qui devrais réparer la faute alors que moi, je n'ai rien fait. Puis la personne qui est fautive là-dedans, bien, c'est mon frère. Puis tu me demandes de réparer des beaux cassés. Hey, attends, écoute, là, ça, c'est vraiment injuste. En effet, c'est vrai que c'est injuste. Ce n'est pas dans la loi de la justice de Dieu que quelqu'un de non coupable subisse le tort, ou plutôt le châtiment de quelqu'un qui l'est. Toutefois, l'erreur qu'on peut faire ici, c'est l'erreur qu'a fait bien des gens, c'est de voir le Père et Jésus-Christ comme deux êtres distincts de la même manière que des êtres humains peuvent l'être. Oui, mon garçon Elliot de 6 ans était fautif, puis Louis-Jacob, 11 ans, il ne l'était pas, puis là, je demande à Louis-Jacob de réparer la gaffe de son frère. C'est deux êtres humains, oui, d'accord, puis même s'ils portent le même nom de famille, c'est quand même deux personnes différentes. Mais le verset 19 nous dit que « car Dieu était en Christ ». On considère ici Jésus comme celui qui paie le prix de la séparation en nous donnant sa vie. Mais c'est également Jésus ici, le juge, qui établit et fixe le prix de ce paiement. Parce qu'il est en harmonie complète avec Dieu. Dieu était en Christ. Donc Jésus est celui qui paie le prix de la séparation, mais c'est également celui qui établit ce prix-là en tant que juge. Tournez avec moi dans l'évangile de Jean. Jean, au chapitre, donnez-moi un instant, au chapitre 10. On va également afficher le texte. Jean, chapitre 10, au verset 13, nous dit ceci. Et c'est Jésus qui parle en disant, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît. » Alors ici, il établit une distinction entre lui et le Père, mais en même temps, il dit, « Je suis le bon berger et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. » Ouais, Jésus ici donne sa vie pour ses brebis. Donc, ça veut dire qu'il a le contrôle sur sa vie s'il prend le luxe de la donner. Est-ce que ce n'est pas un pouvoir divin, ça? Le Père m'aime, même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Oh, c'est qui ici qui reprend sa propre vie qu'il a déjà donnée? C'est Jésus. Jésus donne sa vie, mais également il la reprend. Père, ne me l'ôte pas, je la donne de moi-même. Il établit ici une différence entre Dieu le Père, également lui, mais il se voit également avec une nature divine, même s'il est d'une autre personne du Dieu. Ici, on voit vraiment la Trinité, d'une certaine manière, qui commence vraiment dans les paroles de Jésus à être vraiment explicite. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. On voit ici vraiment la nature divine de Jésus qui, en tant que rançon, bien, je décide de donner ma vie, et si je décide de la donner, c'est parce que, d'une certaine manière, mon Père me l'a demandé. Donc, je suis Dieu, j'ai le pouvoir de la donner, mais en même temps, je suis uni à ce Père-là qui exige que je paie ce prix-là pour que l'humanité soit réconciliée avec moi. Vous me suivez bien? Je sais que ça peut paraître abstrait pour bien des gens, mais c'est important de comprendre la nature de ce point-là au niveau de notre salut. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment Dieu qui se donne à lui-même le change de ce qu'il exige. C'est comme s'il payait le prix de la cabane que je vous parlais tout à l'heure qui a été détruite. Il décide de la reconstruire, mais une fois que c'est lui-même qui l'a détruite, c'est comme s'il accomplit en même temps la justice. Est-ce que c'est injuste pour un juge d'établir un verdict, puis de décider par la suite de payer lui-même ce verdict-là? Est-ce que vous voyez quelque chose d'injuste là-dedans? Mais c'est ce qui t'arrive à travers la personne de Dieu et de Jésus. Il établit le verdict de la séparation de Dieu par le péché, mais en même temps, Dieu paie le prix à travers la personne de Jésus. Il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Quelque chose qui nous exalte. Quelque chose qui nous réconcilie avec le Créateur de l'univers. Et Dieu, en choisissant de nous réconcilier à lui, il ne fait pas seulement son devoir de ne pas nous imputer parce que Jésus a déjà payé, mais en même temps, Jésus étant Dieu, il ne fait pas juste son devoir, il fait acte de pardon, de grâce. Il fait acte de miséricorde. Il y a des gens qui vont vous dire, comment Dieu peut me pardonner quand Jésus a payé lui-même le prix de ce qui me sépare de lui? Bien, Dieu, il a juste accepté le paiement de Jésus. Oui, mais le problème, c'est que tu ne comprends pas que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est lui qui a fourni ce moyen-là pour que son pardon devienne quelque chose de vivant et que, profondément, ça change la nature de notre identité, qu'on devienne de nouvelles créatures spirituelles devant Dieu. Bien sûr, on pourrait s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là et louer, admirer la personne de Dieu pour son travail. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que, d'une certaine façon, contrairement à l'humanité où la loi du donnant-donnant souvent régit notre monde, Dieu dit « Je suis le donnant, puis toi, tu n'as rien d'autre à me donner. Ce que je te donne, c'est entièrement suffisant, j'ai tout accompli. » Dernièrement, j'étais en vacances avec mes enfants aux chutes du Niagara. J'ai passé trois jours aux chutes du Niagara et à un moment donné, on se promenait dans la rue et on était sur l'heure du souper. Puis je rencontre un frère de l'église que je rencontre régulièrement ici. Il fallait juste faire 7 heures de route pour juste le revoir pendant mes vacances. C'est comme ça se tenait comme ça. Puis on est sur l'heure du souper, puis lui, tout d'un coup, vite comme ça, il me dit, « Hey, écoute, c'est l'heure du souper, là. Je vous invite, toi et ta famille, là, venez-vous-en, on s'en va au resto. » Je dis, « Comment ça tu m'invites? » Je dis, « C'est quoi cette affaire-là? » Il dit, « Écoute, je vais payer mon... On peut aller manger ensemble si tu veux, mais je vais payer mon bill, puis tu paieras le tien. » Il dit, « Non. » Il dit, « Tu comprends pas, Miguel, là? Moi, là, je t'invite, là. Ça fait partie de mon budget. J'ai toute une petite partie de mon budget vacances qui est attribuée à des gens que je veux inviter en vacances à souper. Puis cette année, c'est toi, là, fait qu'en vie étant. Fait qu'on va dans une pizzeria italienne, on mange, c'est super bon. » Puis là, je dis à la personne en tant que telle, il dit, écoute, j'apprécie vraiment ton acte de générosité, c'est vraiment le fun. Tu ne m'as pas juste invité moi puis ma femme, tu m'as invité moi puis ma femme puis mes 4 enfants. Fait que, écoute, je l'apprécie. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux-tu faire quelque chose pour toi? Il dit, non, écoute, tu ne me dois rien. Il dit, bien, regarde. Il dit, moi, c'est sûr que je vais te retrouver à un moment donné, là. Je vais te remettre ça à un moment donné. Puis là, je me posais comme question, si j'ai de la misère à accepter que Dieu puisse me bénir, moi et ma famille, puis que je veux juste redonner la bénédiction, parce que ce n'est pas normal de recevoir quelque chose de gratuit, puis je veux juste redonner au suivant. Écoute, je vais me reprendre à un moment donné, je vais donner le change exact de ta monnaie, là, tu m'as payé ça, bien, je vais te le redonner à un moment donné. Imaginez ce que j'aurais fait si, au lieu de m'inviter à souper, il m'aurait insulté ou il m'aurait crié des bêtises. Bien, j'aurais redonné la monnaie de sa pièce aussi, probablement. Si je fais ça pour une bénédiction, imaginez-vous ce que j'en ferais avec une malédiction. C'est comme, à un moment donné, on a de la misère en tant qu'être humain à accepter de ne pas vivre selon cette loi du donnant-donnant. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose. On a oublié qu'à travers Jésus-Christ, Dieu a tout payé. Et je n'ai pas besoin de lui redonner par mes biens, par mes actes, par mes bonnes œuvres, par mes relations avec mes frères, par ma générosité. Je n'ai pas besoin de lui redonner la monnaie qu'il mérite face à ce qu'il a fait pour moi. Bien, la monnaie, écoute, même si moi, je pourrais donner de la monnaie au Créateur de l'univers, Dieu qui se donne lui-même, qui s'investit totalement en tant que personne, puis moi, mon réflexe, c'est, bien, regarde, parce que tu as fait ça pour moi, bien, moi, je vais faire ça. C'est du donnant-donnant. Dieu dit, ça ne marche pas. Tu n'as pas compris ce que j'ai fait pour toi. C'est moi qui te réconcilie à moi. Ce n'est pas toi qui te réconcilie à moi. C'est ça le salut que Dieu nous offre. Une œuvre où Dieu est l'auteur complet de notre salut. Ce qui est extraordinaire également dans ce salut-là, c'est que le verset 19 continue. Et il nous dit également qu'en nous réconciliant à lui, et c'est notre troisième point, en nous réconciliant à lui, Dieu nous associe et nous incorpore au travail de réconciliation qu'il fait. Ce qui est extraordinaire ici, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que Dieu est l'auteur exclusif et unique de notre réconciliation. C'est à lui que va tous les mérites, tout le travail. On ne peut rien faire pour être réconcilié à lui. Mais ce que Dieu dit dans le texte, c'est que même s'il est l'auteur exclusif de ce travail-là de réconciliation, il nous associe à ce travail-là qu'il fait lui-même. Le verset 16 nous dit ceci, « Retournez dans 2 Corinthiens, excusez-moi, le verset 19, la troisième partie. Dieu nous dit, il a mis, ou plutôt Paul nous dit au sujet de Dieu, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà le travail de Dieu. Voilà le travail qui a été accompli par Dieu à la croix. Il a exigé un montant à être payé, la perfection de nos vies, et il a envoyé son Fils payer ce montant-là afin que de séparés que nous étions, nous puissions être réconciliés. Qu'on puisse être, nous dit le Nouveau Testament, adopté. Qu'on puisse entrer dans sa famille. Qu'on puisse être irrésistiblement attiré vers lui et qu'il puisse changer notre identité, bien sûr, de faire de nous des êtres séparés. Il veut faire de nous des êtres réconciliés, mais il veut faire plus que ça. Il veut même nous associer à son travail de réconciliation. Le passage nous dit un peu plus loin qu'on ne peut pas être réconcilié à lui sans devenir les représentants et les ambassadeurs du travail qu'il a fait pour nous réconcilier à lui. Le verset 20 nous dit que Dieu exhorte, proclame et publie un message par ceux qui sont réconciliés à lui, au monde qui ne l'est pas, au monde qui est séparé de Dieu. Dieu dit à ceux qui sont réconciliés avec lui, vous avez un message à proclamer. Et ce message-là, c'est qu'au nom de Christ, soyez réconcilié avec Dieu. Notre vie, lorsque nous sommes réconciliés ou séparés de Dieu, dit quelque chose. Avez-vous bien pris conscience que toutes nos vies proclament un message? Que les gens autour de nous, sur nos auditeurs, de quelque chose à propos de nos vies? Qu'est-ce que nos vies proclament comme message autour de nous? Qu'est-ce que ma vie proclame? Quand mon petit garçon se lève à 5h30 le matin pour me dire qu'il a mouillé son lit. Qu'est-ce que ma vie proclame comme message quand mon collègue de travail m'insulte à propos de ma foi devant tout le monde en prenant mon petit déjeuner le matin devant lui? Qu'est-ce que ma vie proclame lorsque mon patron refuse une augmentation de salaire qu'il m'a promis? Qu'est-ce que ma vie proclame quand mon conjoint ou ma conjointe n'est pas à la hauteur de mes attentes, ou peut-être même de ce qu'il m'avait promis, puis que finalement, bien, c'est tombé au calendrier grec. Il y a quelques années de cela, j'ai connu une dame, essayez pas de trouver, là, vous ne la connaissez probablement pas, j'ai connu une dame, et puis cette dame-là, ça faisait plusieurs années que son mari l'avait quittée. Elle était croyante, lui était non-croyant, donc les enfants n'étaient plus à la maison. Il a décidé de la quitter pour une autre femme avec qui il trompait sa femme depuis plusieurs années. Donc, finalement, le mariage s'est dissous. Elle a été meurtrie par un drame de la vie. Son mariage a été brisé. Et à un moment donné, la dame avec qui le mari en question est parti est tombée gravement malade à l'hôpital. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé, mais elle est tombée gravement malade. Quel aurait été votre réflexe à vous si vous vous mettez dans la peau de la dame qui a été trompée? Tant mieux. Justice a été faite. Dieu a puni cet être humain-là pour le mal qu'il m'a fait, pour avoir brisé mon mariage. Dieu m'a écouté puis il a donné le monnaie de sa pièce à cette dame-là. Elle a voulu briser mon mariage, bien, tant mieux! Justice a été faite. Ce n'est pas vraiment de cette manière-là que la dame en question a réagi. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle était voir la dame à l'hôpital, la dame avec qui son mari était parti. Elle lui a démontré de la compassion, de l'entraide, de l'écoute. Et même au bout du temps, elle a eu l'occasion d'y partager sa foi, lui présenter le message de l'Évangile, vraiment avec un intérêt. Vous savez ce qui est arrivé? La dame a accepté le Seigneur. La personne abusée victime d'une situation dramatique, a été un objet de réconciliation pour l'auteur même de son drame, celle qui avait provoqué le bris de son mariage. Elle ne s'est plus vue comme seulement comme une victime, mon mariage a été brisé, mais elle s'est vue dans son identité comme ce que Jésus avait fait d'elle, un être réconcilié avec Christ. Et cette personne-là, donc, qui a brisé mon mariage, qui a permis le bris de mon mariage, elle vaut plus que la haine que j'ai à lui démontrée. Ce n'est pas ce que Dieu a fait de moi à travers le message de Jésus à la croix. Jésus a fait de moi un être réconcilié avec lui. Et ce message-là est profondément enraciné dans mon cœur. Maintenant, comment est-ce que je pourrais ne pas en témoigner de manière vivante, être un ambassadeur en l'offrant aux gens autour de moi? Je vaux plus que mon mariage qui a été brisé. Je ne suis plus séparé de Dieu. Dieu me dit que je vaux plus que le bris de mon mariage. Je suis réconcilié avec lui. Voilà pourquoi maintenant, je peux offrir ce message-là à quelqu'un qui m'a fait du mal, beaucoup de mal. Cette femme est devenue, par la force des choses, un témoignage vivant de la réconciliation que Dieu voulait faire avec cette dame-là qui était malade. Et ce qui s'est avéré au départ un drame, s'est changé en bénédiction. Le drame s'est changé en miracle. Un enfant de Dieu est né. Pourquoi? Parce qu'une dame qui avait été séparée de son mari, un jour, a mis sa foi en Dieu pour être réconciliée et ça lui a permis de témoigner de ce message-là dans une situation qui, au départ, s'avérait beaucoup plus problématique. Est-ce que ce message-là de réconciliation, ça fait partie de ta vie? Est-ce que tu es réconcilié premièrement avec Christ? Est-ce que tu t'es encore séparé de lui parce que je vous le dis tout de suite, là, si vous n'êtes pas réconcilié avec lui, bien c'est sûr qu'à un moment donné, vous êtes en conflit ouvert avec Dieu. Même si vous n'en avez pas l'impression, votre cœur est habité par le mal, comme le mien l'est. Ce n'est pas que Dieu veut complètement détruire ce que j'ai tout subi dans le passé. Il veut lui donner une nouvelle orientation. Il veut me donner une nouvelle identité. Je ne suis plus ce mal en dedans de moi. Et même si parfois je suis imparfait, même si le mal encore habite dans mon cœur, Dieu restaure ce cœur par un message de réconciliation. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Une vie de réconciliation. Est-ce que tu vis cette réconciliation avec lui? Même quand tu te lèves du pied gauche le matin, est-ce que tu la ressens? Est-ce que tu la vis? Est-ce que les gens autour de toi en sont conscients? Est-ce qu'ils en sont les bénéficiaires? C'est la grâce de Dieu qui produit cela. Ce n'est pas nos propres forces. Le salut que Dieu nous offre est un message de réconciliation. Et ma prière, mon défi que je vous lance ce matin, c'est ceci. Simplement trouver un espace dans nos vies où est-ce qu'on ne savoure pas pleinement ce message de réconciliation. J'ai besoin de mettre fin à des conflits qui existent avec une personne. Ça peut être un conflit plus ou moins grave, mais j'ai besoin de vivre cette réconciliation-là, non seulement avec Dieu, mais avec les gens autour de moi. L'un ne veut pas sans l'autre. C'est comme le caribou puis la reine. Ça va ensemble sur un 25 cents. Et notre vie spirituelle, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas être réconcilié avec Christ et dire aux gens autour de vous, « Je me fous de vous. Je vis très bien le fait d'être en conflit avec toi. » Parfois, ça ne dépend pas juste de nous. Parfois, les conflits, mais quand ça dépend de nous, Dieu s'attend à quelque chose de notre part. Qu'on prenne ce qu'il y a de fantastique et époustouflant qu'il a fait pour nous réconcilier à lui, afin que le monde autour de nous en bénéficie. On va courber dans un moment de prière. Seigneur éternel, c'est tellement bon, tellement doux, agréable, et bénissant, Seigneur, que de se savoir réconcilié avec toi. Je prie, Seigneur, et je me mets à genoux devant toi pour que, dans notre ville de Longueuil, ce message, Seigneur, puisse être connu, vécu et reçu, Seigneur, de la part de toute la population, pour que notre population, notre humanité, puisse apprendre à dépendre de toi, Seigneur, afin de vivre pour toi cette réconciliation que tu as acquise pour nous. On veut contempler, Seigneur, ton Fils Jésus ce matin pour ce qu'il a fait pour nous. Il a donné le change exact de ce qui nous séparait de toi. Et toi, tu nous as unis à toi par sa vie précieuse. Tu t'es investi totalement en nous. Comment ne nous investirions pas maintenant totalement pour ceux qui nous entourent? Tu nous as tracé la voie à suivre. Tu nous as donné à nous une parole de réconciliation. C'est encore toi qui nous as donné tout cela. On n'a rien à voir à cela. C'est toi, Seigneur, qui es l'auteur exclusif et souverain de tout cet ouvrage-là de réconciliation que tu fais avec nous. Apprends-nous à t'adorer pour ce que tu es et à vivre au jour le jour cette réconciliation-là en toi, par toi et pour toi. Que ce soit dans nos familles, dans nos couples, dans nos travails, donne-nous la force, la puissance et l'humilité de ne pas nous satisfaire d'une vie en conflit avec les autres, mais qui se réconcilie comme toi-même tu nous as réconciliés à toi. Merci Seigneur Jésus pour ce travail glorieux que tu as fait pour nous. Et que ce message puisse entrer dans nos cœurs avec toute la grandeur, Seigneur, que tu possèdes. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on veut présenter cette requête devant toi.